Merci, colonel Bass. Nous arrivons maintenant à notre séance de questions-réponses. Je vous rappelle de nouveau que pendant cette conférence de presse, on va présenter un rapport sur la situation des droits de l'homme dans les centres de détention en République démocratique du Congo. Avant de la présentation de ce rapport, on a le temps pour 2-3 questions. On vous demande de vous étendre vos téléphones et de vous présenter. On peut commencer par Goma, aujourd'hui. Goma ?
Oui, 2 questions.
Merci Aline Ngwe pour Top Congo FM et responsable du magazine Voix de la Femme. Je veux d'abord commencer à rappeler à M. le porte-parole la question de la fois passée. En suivant l'actualité, on constate qu'en plus du territoire sous contrôle du M23, il existe trop de portions du territoire congolais qui échappent au contrôle du pouvoir. En tant que partenaire de l'État congolais, comment la MONUSCO explique-t-elle cette incapacité de la RDC à contrôler tout son territoire malgré votre appui? La deuxième question, à partir du 1er avril, le Rwanda, qui est accusé par un rapport des Nations Unies de soutenir le M23, préside le Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, c'est à cette période que tout doit se décider sur la brigade d'intervention de l'ONU que nous attendons ici en République démocratique du Congo. Ne croyez-vous pas que ces pays qui risquent, compte tenu de ces relations avec le M23, freiner le processus du déploiement de cette brigade? Merci.
Merci beaucoup. Je crois que ce sont des questions militaires. Je vais passer la parole au colonel Bass.
Oui, merci Monsieur Carlos. Je pense que on ne pourrait pas parler d'incapacité du gouvernement congolais à restaurer l'autorité de l'État dans toute cette partie. Vous conviendrez avec moi que des efforts significatifs sont en train d'être faits aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau de la MONUSCO pour essayer d'endiguer, si vous voulez, toute cette violence que nous avons observée ces temps derniers. Et vous n'êtes pas non plus sans ignorer que, compte tenu de l'étendue du territoire congolais, compte tenu du manque d'infrastructures pouvant relier tel village à un autre village, vous conviendrez avec moi aussi que les difficultés sont là, elles sont palpables. Toujours est-il que, d'un commun accord et en coopération avec la MONUSCO, des efforts sont en train d'être déployés pour essayer de mettre un terme à toutes les activités des innombrables groupes armés. Comme vous le savez, au Nord Kivu, nous avons à peu près une quarantaine de groupes armés pour mettre un terme à toutes leurs activités dans un futur très prochain.
On prend une deuxième question de Goma avant de venir à Kinshasa.
Oui, c'est Hortense Tabaku pour Digital Congo. Selon des sources proches de l'Union africaine, l'envoyé spécial pour le suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba dans la région des Grands Lacs, dans le tout prochain jour, serait un Africain. Je voulais savoir si cette information peut être confirmée par le porte-parole intérimaire et surtout quel impact l'Africain aura apporté dans la résolution des crises dans la région. Et aussi, selon un récent rapport de OCHA, la situation humanitaire des déplacés dans différents camps est vraiment catastrophique au Nord Kivu. Et les autorités même lancent des SOS chaque jour. Je voulais savoir qu'est-ce que la MONUSCO, ou bien j'adresse ma question à M. Sylvestre Ntumba, comment vous comptez gérer cette crise et qu'est-ce que ces déplacés peuvent attendre de vous? Merci.
Merci beaucoup. Sur la première partie de votre question, sur l'envoyé spécial, on a vu cette nouvelle, c'est seulement de la spéculation. En ce moment, il n'y a rien, le nom, l'identité de l'envoyé spécial n'a pas encore été annoncé. Il faut attendre que le secrétaire général l'annonce. Dans les prochains jours, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de noms, beaucoup de spéculations sur ça, mais on ne va pas commenter sur ça parce que ce sont des spéculations. Je passe maintenant à Sylvestre pour la deuxième partie.
Merci pour la question. Je ne sais pas lequel de rapport de OCHA vous avez lu et qui parlait de situation catastrophique dans le camp. Toujours est-il qu'il y a des besoins dans les camps de déplacés, et globalement c'est des besoins en vivres, en abri et en articles ménagers essentiels. Des évaluations ont été faites et des réponses sont progressivement apportées. notamment les distributions dont je vous faisais part la semaine dernière, qui étaient organisées notamment par le programme alimentaire mondial. Il y a des besoins, c'est vrai, mais il y a aussi des réponses qui sont continuellement apportées.
Merci. On va maintenant ici à Kinshasa. On commence ici à ma droite. Est-ce qu'on peut, on peut avoir un micro à droite pour la question ? Merci.
Merci. C'est Steve Wembi pour l'agence Chine Nouvelle et la télévision centrale de Chine. J'ai deux questions, colonel Bass. La première, lorsque deux factions du M23 se sont affrontées à Rugari, quel rôle a joué la MONUSCO ou bien la police MONUSCO pour sécuriser la population ? La deuxième question, Monsieur Runiga affirme avoir capturé une cinquantaine de soldats FRDC qui étaient du côté du général Makenga. Est-ce que la MONUSCO peut confirmer cette information aussi?
Merci. Concernant les activités menées par la MONUSCO durant tous les affrontements que nous avons suivis depuis le 9 mars dans la zone de Rugari, ben vous savez, notre mandat n'a pas varié, notre attitude n'a pas varié, notre engagement non plus n'a pas varié. Donc, nous continuons à mener nos activités normales, conformément à notre mandat, qui est de protéger les populations civiles qui sont dans cette zone-là, en menant des patrouilles, en sécurisant toutes ces populations, en les convoyant, en les abritant dans nos postes opérationnels et en leur prodiguant les premiers soins dont ils ont besoin. Donc, voilà ce que nous faisons, qui n'a pas varié d'un cran par rapport à ce que nous avons toujours fait pour remplir le mandat que nous a été donné par le Conseil de sécurité. Maintenant, les déclarations de M. Jean-Marie Runiga, je ne pense pas être en mesure de les commenter, parce que si vous parlez de soldats FRDC appartenant à Sultani Makenga, permettez-moi de relever cette contradiction, parce que je pense que les soldats FRDC, pour le moment, ne sont pas ceux de Sultani Makenga. Donc, je me garderai bien de commenter cette déclaration de M. Makenga, qui pourrait être aussi de la propagande.
Merci beaucoup, colonel. Maintenant, comme promis, on va donner la parole aux représentants spécial adjoint du secrétaire général en charge de l'état de droit, général Abdallah Wafi, il représentant du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Scott Campbell, pour la présentation d'un rapport sur la situation des droits de l'homme dans les centres de détention. Général.
Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme annoncé, donc, je vais donner d'abord la parole à M. Scott Campbell, qui est le responsable du bureau conjoint des droits de l'homme, pour vous donner un peu l'économie de ce rapport, qui est un rapport extrêmement important parce que, comme vous le savez, il touche à la question des droits de l'homme et particulièrement en milieu carcéral, c'est-à-dire les personnes qui, à un titre ou à un autre, sont privées de leur liberté et sont en milieu carcéral. L'étude qui a été faite, le rapport qui donc va être rendu public, fait un peu l'économie de cela, ainsi que les recommandations à l'issue de ces rapports d'investigation. Donc, il va vous donner un peu l'économie de ce rapport, et moi, je vais plutôt m'attarder un peu sur les recommandations et sur les voies et moyens d'améliorer cette situation qui est vraiment très préoccupante dans les prisons congolaises. Monsieur Scott Campbell.
Merci beaucoup, général. Bonjour à tout le monde. Ce rapport que nous lançons aujourd'hui s'agit de décès dans les centres de détention en RDC. C'est un rapport qui découle directement du mandat de la MONUSCO qui nous demande de constater et dénoncer les violations des droits de l'homme et à y donner suite. Cette thématique est considérée comme priorité par les Nations Unies, étant donné l'ampleur et la nature particulièrement grave de ce problème. L'objectif de ce rapport, c'est d'abord donner le bilan des décès en détention qui ont été enregistrés entre 2010 et 2012, faire des analyses sur les causes principales de ce phénomène tragique. Et finalement, et peut-être la chose la plus importante, c'est de formuler des recommandations pour faire face et améliorer cette situation. Si on me pose la question, mais pourquoi maintenant vous faites ce rapport? Il est vrai que c'est un problème qui perdure depuis des années, depuis des décennies. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une fenêtre d'opportunité de faire face à ce problème très grave. compte tenu de la volonté que nous avons constatée d'une manière très palpable du gouvernement, notamment de leadership qui vient du ministère de la Justice et des Droits Humains, et de toi des actions concrètes déjà prises dans ce domaine par le gouvernement. Donc nous estimons que c'est un moment très opportun. Notre méthodologie était faite à travers les visites de recherche dans les cachots, les lieux de détention, en collaboration avec plusieurs sections de la MONUSCO, la famille Nations Unies, les ONG nationales et les ONG internationales. Je dois juste noter que le chiffre que je vais vous donner s'agit des violations des droits de l'homme. Donc il y a des décès en détention qui sont aussi dus aux causes naturelles. Mais ce rapport est un rapport de droits de l'homme. Donc lorsque nous parlons d'un décès en détention, c'est dû à une négligence de l'État. Donc des causes spécifiques, il y a eu une violation des droits de l'homme d'une personne en détention. Donc ce n'est pas compréhensif si vous voulez. Nous avons eu aussi certains problèmes liés à l'accès de certains lieux de détention. Les conclusions du rapport sont très brièvement les suivantes. Entre janvier 2010 et décembre 2012, nous avons documenté 211 décès en détention. Il s'agissait d'une cinquantaine en 2010, une cinquantaine en 2011 et plus de 100 décès en détention en 2012. Vous allez recevoir à la sortie un communiqué de presse et le rapport entier de ce rapport et en français et en anglais si vous voulez. Les nombres, les causes principales de ces décès, il s'agit de la surpopulation carcérale, bien sûr, la malnutrition, il manque de soins médicaux, accès aux médicaments, l'insuffisance d'un budget attribué dans ce domaine, et aussi, une chose très importante, une insuffisance de gestion de peu de fonds qui sont destinés à ce secteur. Aussi, il y a eu 10%, un peu plus de 10% des décès en détention qui sont dus au mauvais traitement, donc aux tortures, d'autres formes de mauvais traitement, chose qui est particulièrement préoccupante. Avant de passer la parole à son Excellence le Général Wafi, je voulais juste vous expliquer que sur ce phénomène, comme je disais, tragique et une réalité très grave, nous accueillons avec beaucoup de satisfaction des actions concrètes déjà prises par le gouvernement et leur vision aussi de faire face à ce problème. Notamment, le mois passé, fin janvier, il y a eu un décret, un arrêté portant création aux comités locaux d'encadrement et de gestion de supervision des fonds qui sont destinés pour les prisons provinciales et autres. Donc il y a déjà un cadre pour bien gérer ce budget qui est censé être livré au bénéfice des personnes en détention. Et donc, je pense que c'est vraiment à la communauté internationale d'épauler ce genre de bonnes initiatives parmi d'autres. Et pour les recommandations précises, je vais passer la parole à son Excellence le Général Wafi. Merci.
Merci, Scott. Donc, parmi les principales recommandations à retenir de ce rapport qui vient d'être rendu public, la première recommandation, nous demandons au gouvernement de mettre en place une stratégie nationale visant à coordonner les efforts des acteurs nationaux et internationaux, des donateurs, afin d'assurer la cohérence des actions visant à améliorer les conditions de détention dans l'ensemble du pays. S'assurer qu'un système de supervision générale de tous les lieux de détention est en place et fonctionne de manière effective, notamment à travers les inspections qui sont déjà, je le signale, prévues par la réglementation en vigueur au RDC. Établir un budget global suffisant pour l'administration pénitentiaire, y compris une allocation claire et précise pour tous les établissements de détention en fonction de leur effectif et des besoins réels. Parce qu'on ne peut pas priver des êtres humains de leur liberté et ne pas leur donner les moyens de subsistance pendant qu'ils sont dans les prisons. Parmi les recommandations, il y a aussi le renforcement du contrôle de la légalité de la détention, pour pouvoir décongestionner les prisons et cachots, parce que une des causes, c'est aussi la surpopulation carcérale. Et enfin, nous encourageons l'introduction dans la législation congolaise du recours à des peines alternatives à l'emprisonnement. Il faudrait que l'emprisonnement soit l'exception et que d'autres formes de peines soient prévues pour justement décongestionner les prisons et permettre à ces prisons de fonctionner, en un mot, de les humaniser. Et donc, je voudrais, à l'occasion de ce rapport, dire que ce rapport a été partagé avec les autorités du ministère de la Justice qui ont collaboré, qui ont commenté. Donc c'est un travail qui a été fait en pleine connaissance de cause par les autorités congolaises. Et je me félicite de l'état d'esprit et ainsi que des initiatives qui sont prises particulièrement par la ministre de la Justice pour vraiment aller dans le sens d'une amélioration des conditions de détention dans la prison congolaise. Mais au-delà de cet aspect, de ces actions qui sont menées, nous pensons au niveau de la MONUSCO, nous pensons au niveau des Nations Unies qu'il est impératif pour les autorités de la RDC d'avoir carrément un plan de réforme pénitentiaire, parce que le phénomène est vraiment très préoccupant. C'est l'ensemble des prisons congolaises, je dis bien l'ensemble des prisons congolaises, qui ne répondent pas aux normes, qui ne respectent pas les standards minimum par rapport aux conditions de détention. Et nous pensons que seul un plan de réforme pénitentiaire peut, avec l'appui de la communauté internationale, mobiliser les ressources pour appuyer les autorités, enfin, vraiment, d'avoir un plan de réforme depuis le statut du personnel, parce qu'il faut du personnel spécialisé dans les prisons, il faut soigner les prisonniers, il faut réhabiliter, parce que l'objectif final, c'est la réinsertion plus tard de ces condamnés. Et, voilà pour les prochains mois, l'axe sur lequel nous allons travailler avec nos partenaires du ministère de la Justice pour pouvoir obtenir vraiment à terme l'humanisation des prisons congolaises. Alors, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions particulières, et par rapport à ce rapport et par rapport au constat qui a été fait, nous sommes prêts à vous donner les réponses que nous avons. Je vous remercie.
Merci, Général Wafi. On continue ici à Kinshasa pour les questions. On va ici à ma gauche. Si tu peux dire ton nom.
Patrick Mbangaletea pour l'expression. Je pose ma question, c'est une question de curiosité et puis c'est un peu technique dans les domaines des droits de l'homme. Pourquoi vous avez pris la période allant de 2010, 2011, 2012, et surtout c'était vraiment une période préélectorale, électorale et post-électorale? Et concernant les 10 cas de torture, quel type de torture que vous avez souligné, psychologique ou comment?
Concernant la période, il faut souligner que la MONUSCO, les Nations Unies, depuis longue date, au moins depuis 10 ans, fait le monitoring, observe la situation dans les lieux de détention. Nous avons aussi au passé publié les différents rapports sur ce phénomène. Mais nous avons choisi donc la période juste la plus récente pour vous donner une idée des tendances, attirer l'attention sur ce problème. Aussi, en notant qu'en 2012, il y a eu une augmentation importante, mais aussi en notant la fenêtre d'opportunité qui existe aujourd'hui, en voyant ce récent passé et le problème qui dure depuis très longtemps, mais de faire quelque chose de positif. Je vais juste préciser, j'avais parlé, j'espère que j'avais bien noté, il y a plus de 10% des cas, pas 10 cas de torture, mauvais traitement, qui ont été suivis par un décès, mais c'est à peu près 10-11% des cas que nous avons documentés qui sont dus au mauvais traitement, aux tortures. Je ne peux pas vous dire précisément quelle forme, parce qu'il y en a plusieurs. En fait, ça représente 24 cas, à peu près 10-11% des 211 cas que j'ai notés. Il y a plusieurs formes de mauvais traitement, asphyxiation, liées au surpeuplement. Il y a plusieurs formes de différents mauvais traitements.
Je crois qu'on a le temps seulement pour une brève dernière question. On va là-bas, à ma gauche, très très vite, parce que le temps
Oui. Merci, Monsieur le porte-parole. Je me nomme Benoît Kambéré Lusumba. Je suis du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. J'adresse ma question au général Wafi. Mon général, qu'est-ce que la MONUSCO peut faire pour aider à ce que les prisons congolaises soient humanisées et surtout pour que les prisons congolaises répondent aux standards internationaux? J'ai dit.
Merci. D'abord, pour revenir à la question précédente en ce qui concerne le temps, 2010-2012, je voudrais quand même signaler la création au sein de la MONUSCO d'une unité pénitentiaire qui regroupe aujourd'hui plusieurs dizaines d'experts venant de beaucoup de pays et avec une forte expertise pour justement appuyer ce processus de réforme pénitentiaire. Qu'est-ce que la MONUSCO peut faire? Je pense que déjà, nous sommes dans la phase actuelle, au quotidien, partout où nos officiers pénitentiaires sont déployés, en train d'assister, d'aider en rapport avec les humanitaires pour apporter des solutions ponctuelles dans les prisons, que ce soit en matière d'appui aux soins médicaux ou d'alimentation, ou même d'attirer l'attention des autorités congolaises ici sur l'état de certaines prisons, particulièrement quand vraiment la situation est désastreuse. Mais au-delà de tout, pour répondre à votre question, notre stratégie, notre volonté, c'est vraiment d'appuyer le ministère de la Justice pour doter la RDC d'un plan de réforme pénitentiaire, d'avoir une stratégie nationale qui puisse à terme permettre à la RDC d'avoir une carte pénitentiaire et des conditions de détention pénitentiaire acceptables et conformes. Nous avons des experts de haut niveau et nous pouvons, dans le cadre de notre plaidoyer, non seulement apporter l'expertise pour mettre en place ce plan, mais aussi mobiliser la communauté internationale, parce que dès lors qu'il y aura un plan accepté, les gens accepteront de mettre des financements parce qu'ils vont savoir d'où on vient, d'où on va et qu'est-ce qu'on veut faire exactement.
Merci Général, c'est le temps de dire merci aux auditeurs de Radio Capi qui étaient en direct. On peut, si vous voulez, parce que le sujet c'est très intéressant, on peut continuer ici à continuer avec des questions, mais maintenant on n'est pas en direct à Radio Capi. Pour moi aussi c'est une opportunité de dire merci de nouveau à Florence pour sa contribution à cette conférence de presse. Et on peut continuer maintenant avec des questions. Ici, à gauche, et après on ira à Goma.
Je m'appelle Honoré Mbenga, je suis journaliste de l'agence presse associée APA. Ma question s'adresse à M. Scott. M. Scott, selon votre monitoring, vous pouvez nous dire depuis quelle période les centres de détention en République démocratique du Congo ont été quand même un peu humanitaires, jugés humanitaires, et à partir de quelle période également ont été détériorés? Ça c'est ma première question, le premier volet de ma question. Deuxième volet, vous avez eu beaucoup d'entretiens avec les responsables de l'administration pénitentiaire de la RDC. Quels sont les arguments qu'ils avancent face à cette situation? Merci.
Okay. Scott.
Oui, ok. Il faut dire que la plupart des cachots, les lieux de détention, les prisons provinciales ont été construites avant l'indépendance, la vaste majorité. Donc il y a une infrastructure qui date très souvent de plus de 50 années. Donc il y a des aspects qui donne faveur au surpeuplement. Il y a les centres qui sont beaucoup trop petits. Mais j'aimerais aussi attirer l'attention en complétant le général sur le fait que les Nations Unies, le PNUD, la MONUSCO, l'UNOPS, OIM, plusieurs parties des Nations Unies est très impliquées dans la construction ou l'amélioration des conditions de détention très concrètement. Les Nations Unies ont construit des nouvelles prisons à Bunyakiri, à Rutshuru, à travers le pays, et on a contribué, y compris à travers les projets QIPS, à l'amélioration des conditions physiques des structures de détention. Mais il faut dire que la plupart des prisons été construite avant l'indépendance de la RDC.
Merci Scott. On va maintenant à Goma. Est-ce que Goma, vous avez des questions sur ce rapport?
Oui.
Allez-y.
C'est une éclangue de la voix de l'Amérique. Est-ce que le problème des décès en détention est plus grave, même beaucoup plus grave en RDC que dans les autres pays de la région?
Excellente question. Sans vous donner les chiffres précis, je dirais oui. Nous avons une population carcérale de à peu près 20 000 prisonniers, une vingtaine de milliers. Et donc, si on constate que dans une année, vous pouvez avoir plus de 100 personnes qui meurent dans ces lieux de détention, donc nous avons un taux de à peu près 8 personnes qui meurent par mois. Chaque mois en RDC, il y a 8 personnes qui meurent, pas pour les raisons naturelles, les causes naturelles, mais à cause de négligence, du manque de responsabilité. C'est un taux qui est alarmant, qui est plus élevé que des pays dans la région, sans vous donner les chiffres, les statistiques comparatifs en ce moment. Mais effectivement, c'est quelque chose que nous trouvons extrêmement alarmant, et le fait que ce chiffre a presque doublé depuis 2011 aussi nous inquiète beaucoup.
Merci. On revient à Kinshasa, ici à ma droite.
Oui, Samir Limbo du journal Explorateur. Je pose la question à M. Scott pour savoir si vos experts, ils ont eu l'accès à toutes les prisons, précisément dans les services secrets de l'État, par exemple les services de sécurité. Est-ce que vous avez eu les informations de ceux qui perdent là?
Non, merci pour la question. Comme j'ai souligné très rapidement en passant, nous n'avons pas eu l'accès à tous les lieux de détention. Malgré notre mandat ici en RDC, notamment au niveau de l'ANR, la garde républicaine, parfois les renseignements militaires, nous avons parfois des problèmes d'accès. Donc notre rapport n'est pas compréhensif, on ne peut pas prétendre qu'on a documenté tous les cas, et le chiffre effectivement pourrait être plus élevé. Je vais juste souligner un aspect très important que je pense n'était pas mentionné jusque-là. Et il est vrai, comme le général a bien dit, que nous avons besoin d'un personnel pénitentiaire bien formé, professionnalisé, avec tous les outils, de faire son travail pour mieux encadrer les prisonniers. Et nous nous félicitons du travail de nos collègues de notre section appui au système pénitentiaire dans ce sens. Mais une chose cruciale qui manque aujourd'hui, c'est la prise en charge effective de ce personnel, des fonctionnaires de l'État, qui sont au service de la population dans le milieu carcéral, mais qui ne reçoivent pas un salaire adéquat, à notre avis. Et je pense, sans penser au personnel qui travaille dans ce domaine, il est très difficile d'attaquer aux problèmes de détournement de fonds et de corruption.
Je voudrais aussi souligner quand même que ce rapport, comme son nom l'indique, concerne les décès en détention. Ce n'est pas l'état des lieux. On n'a pas fait un état des lieux de la situation pénitentiaire carcérale en RDC, même si il y a quelque part un lien de cause à effet entre la situation carcérale et les décès qui ont lieu en milieu carcéral. Mais cependant, nous pensons que si cette réforme que nous appelons de nos voeux est adoptée, qui va par exemple depuis l'institution d'une direction générale de l'administration pénitentiaire en passant par un statut spécial sur le personnel pénitentiaire appelé à servir partout dans les prisons à RDC, avec des directions provinciales pénitentiaires et même une école de formation, parce que vous savez, il n'est pas gardien de prison qui veut. Actuellement, on a des éléments à FRDC, la PNC, même des volontaires qui gardent les prisons en RDC, ce qui n'est pas du tout conforme aux standards. Alors, si ce personnel n'est pas formé, n'est pas payé et il n'y a pas de budget spécifique pour l'entretien, le fonctionnement de ces prisons, il est fort à craindre que la situation continue à se détériorer. Alors, nous, notre appui, notre stratégie, c'est d'appuyer les autorités congolaises pour formellement concevoir, adopter et mettre en œuvre ce plan de réforme qui, comme je l'ai dit, nous pensons pourra apporter des réponses appropriées à la situation que nous constatons actuellement.
Je propose maintenant qu'on mette fin à la conférence de presse. Je suis sûr que le général et Scott sont disponibles pour répondre à des questions individuelles après la conférence. Florence et Sylvestre sont toujours là pour répondre à des questions. Le colonel aussi. Ça veut dire qu'on peut continuer maintenant au niveau individuel. Merci beaucoup pour la participation.